voix nue. Cette semaine, Odile Conseil rencontre François Morel. Ce soir, j'avais une tête d'enfant de cœur.
Bonsoir François Morel.
Bonsoir Odile.
Alors, il me semble, François Morel, que la façon la plus simple et la plus brève de vous qualifier, de vous présenter, c'est artiste de variété. Alors, artiste, bon, vous l'êtes puisque vous vous produisez sur scène, sur les écrans, que ce soit pour chanter, pour dire les textes des autres ou les vôtres. Et vos talents sont variés, comédien, chanteur, auteur, chroniqueur de radio, un peu comique, beaucoup poète, adepte du sourire en coin, promoteur de tendresse. J'oublie quelque chose?
J'en sais rien.
Vous avez des talents de cuisinier aussi, peut-être?
Très peu.
Danseur étoile?
Oh non, 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 danseur, non. Une fois, Marcel Amont a assisté à un de mes spectacles et il a dit « t'es un bon auteur, t'es un bon comédien et tout ça, mais comme danseur, tu es épouvantable ». Et il m'a dit « mais continue à danser comme ça parce que tu es le seul à danser de cette façon-là ».
Est-ce que le qualificatif de artiste de variété vous convient alors?
Oui, sinon je parlais de Marcel Amont tout de suite, donc fantaisiste, ça m'irait bien aussi.
Donc vos références de fantaisiste, il y a Marcel Amont, il y a Darry Cole que vous citez souvent,
oui.
Non?
Ben, j'avais joué avec lui, donc c'est quelqu'un qui me faisait beaucoup rire, oui. Quand j'étais petit, Fernand Reynaud, Roger Pierre, Jean-Marc Thibault, j'avoue que je les regarde moins maintenant, mais c'était des références en tout cas quand j'étais petit ou jeune homme.
Robert Lamoureux.
Ah, y a des jolis textes de Robert Lamoureux. Y a partout des gens qui se promènent avec le cœur tout plein de soucis. Pour tous ces gens qui ont de la peine, ma maison n'est pas loin d'ici, bien sûr. Chez moi, c'est pas immense, mais il y a quand même un beau jardin. Quand on a le cœur dans la souffrance, de voir des fleurs, ça fait du bien. Si t'as des ennuis, si t'as des soucis, viens à la maison. Si t'as eu de la peine, si t'as pas eu de veine, viens à la maison. Le gosse te dira des fables d'autrefois, t'auras des chansons. Si t'as des misères, bah viens prendre un verre, viens à la maison. Je trouve ça joliment écrit.
Les jeunes auditeurs de France Culture vous remercieront certainement de leur faire connaître Robert Lamoureux, dont ils doivent ne pas savoir grand-chose. Alors, j'ai l'impression qu'il y a aussi en vous du Vialat, du Sempé, du Goscinny, tout ça, c'est des références que vous endossez volontiers?
Ah bah oui, de grandes références. Quand j'étais petit, je lisais Pilote toutes les semaines, donc René Goscinny. La découverte de Vialat vient plus tard. Et le troisième, c'était qui? Vous m'avez cité Sempé, oui, bien
Sempé,
sûr,
oui.
Bien sûr.
Bah, ouais. Il y a d'ailleurs des dessins de Sempé ici sur vos murs.
Oui, quelques-uns.
Alors, on a le sentiment, en vous voyant, vous écoutant, vous lisant, que vous êtes un gentil.
Détrompez-vous.
Est-ce que ça vous plaît donc qu'on pense que vous êtes gentil? Ça vous déplaît? Vous n'êtes pas un méchant?
Je sais pas. J'ai l'impression que je me suis adouci. C'est peut-être le mouvement normal d'une vie. On s'adoucit un peu avec l'âge. J'ai l'impression que j'étais plus agressif, même à l'époque des chiens et tout ça, j'étais peut-être plus rentre-dedans. Maintenant, je suis plus apaisé, peut-être. Je sais pas. Donc j'ai cette image de gentil. Bon, enfin, je suis très désagréable quand je suis au volant. Je peux me mettre en colère. Je ne suis pas un ange.
Je ne vois pas d'aile, en effet, derrière vous. Alors, François Morel, il est de coutume dans cette émission de commencer par le commencement, c'est-à-dire votre enfance, votre jeunesse. La vôtre se passe en Normandie, dans l'Orne, à Flers, on dit Flers, hein, pas
Flers. Flers, ouais.
Et plus précisément encore à Saint-Georges-des-Groseilliers. C'est un nom qui incite à la rêverie, non, Saint-Georges-des-Groseilliers?
Ouais, je sens qu'à chaque fois que je cite ce nom de commune dans une de mes chroniques, ça plaît beaucoup et on a tout de suite le sourire aux lèvres. Voilà, c'est la commune qui est juste à côté de Flers de l'Orne, où j'ai passé les 18 premières années de ma vie.
Village bas-normand, gaulliste, conservateur et catholique, écrivez-vous quelque part. Elle vous a laissé...
Ouais, enfin quand j'étais petit, oui, c'était plutôt comme ça, oui.
Elle vous a laissé quel souvenir, cette enfance? Un long fleuve tranquille?
Assez tranquille, oui. Je bosse dans une petite maison sur deux étages. Il y avait un grenier au-dessus où papa rangeait le grain pour les bêtes. Il y avait des lapins. maman avait des lapins, de temps en temps elle en tuait un et elle leur enlevait leur pyjama et on trouvait ça assez normal. Il y avait un chien dans sa niche qui aboyait de temps en temps, il y avait des poules, un petit terrain, un poirier, des poires d'Angleterre dans le jardin que Madame Marie venait chercher tous les ans parce qu'elle aimait les poires au vin. L'école était juste à côté, donc mon chemin des écoliers était très court. L'église était pas loin. Quand papa était énervé, qu'il voyait l'église et qu'il disait on ferait mieux de ranger du foin là-dedans, ça serait plus utile. Et maman allait à la messe régulièrement le dimanche.
Votre père donc travaillait à la SNCF, il militait à la CGT, vous avez parlé de lui à plusieurs occasions. Vous aviez quelle sorte de relation avec lui ?
J'ai beaucoup de tendresse aujourd'hui pour mon papa qui est mort en 1994. C'était pas forcément quelqu'un de facile à vivre. C'est quelqu'un qui faisait les 3-8. Et donc, soit il commençait à 5h le matin pour aller à la SNCF, soit il partait à 13h, soit il partait à 21h. Et quand il rentrait à 21h, il y avait souvent une inquiétude de savoir comment il allait rentrer, s'il allait être de bonne humeur ou pas. Donc cette enfance est sous-tendue par ce sentiment-là. Comment va rentrer papa ?
Et quand il n'était pas de bonne humeur, hein, qu'est-ce qui se passait quand il rentrait ?
C'était mieux qu'on aille se coucher assez tôt. Voilà, parce que c'était compliqué. Mais en même temps, un type profondément tendre, qui avait regretté toute sa vie de pas avoir fait des études, qui avait arrêté les études à 13 ans. Et donc, son obsession, je crois, pour nous, c'était qu'on monte dans l'ascenseur social et qu'on puisse faire des études. Et c'était quelqu'un qui avait plutôt du goût aussi pour l'écriture, pour les chansons. Je me souviens, il y a des chansons comme ça qu'il aimait beaucoup, les cœurs purs de Jean-Roger Cossimon, des chansons de Gainsbourg, il aimait beaucoup ça, les sketchs de De Vos. C'était plutôt il était intelligent et il avait ses fragilités.
Donc votre goût pour la chanson et pour De Vos ne vient pas de nulle part, en fait.
Non, sûrement. Oui, mais, c'est pas... sans doute. Je sais pas. Lui, il aimait surtout... Il aimait beaucoup Henri de Montfred. Il lisait beaucoup les aventures d'Henri de Montfred.
Et
il
avait grand explorateur.
Oui. Et il avait la nostalgie aussi de ses lectures de Jules Verne. Alors que, bon, par exemple, moi, je me suis peu intéressé à Henri de Montfred, pas tellement à Jules Verne.
Et avec votre mère, comment ça se passait ?
Une maman affectueuse.
Au foyer ?
Au foyer, pendant qu'on est trois enfants, parce qu'on est trois enfants. J'ai une sœur aînée qui a 8 ans de plus que moi et un frère qui a 5 ans de plus que moi. Donc elle s'occupe de ses enfants. Et puis quand elle a un peu plus de temps, elle fait des travaux dans des bureaux. À l'Orsonnière, la caisse agricole de l'Orsonnière à Flers. Donc je crois qu'elle va en Solex travailler. Elle a un mi-temps et elle fait un peu dactylo et tout ça.
Alors, en 2012, un de vos billets du vendredi matin était une lettre touchante adressée à votre père, qui était décédé depuis longtemps déjà à l'époque. Pourquoi avoir choisi d'écrire cette lettre à votre père pour parler de l'élection présidentielle, puisque c'était juste avant le deuxième tour de l'élection présidentielle ?
Je crois que c'était Mélenchon qui était l'invité de France Inter ce matin-là. Et je m'étais dit que si mon papa était là, évidemment qu'il aurait voté pour Mélenchon et que ça aurait été son choix électoral évident. Et je me suis raconté toutes les élections présidentielles que j'avais vécues à côté de mon père et j'en avais un souvenir très précis. Je me souviens une fois, s'est engueulé avec Madame Catéchèse. J'étais extrêmement gêné. il aimait bien revendiquer une appartenance à la gauche dans un village qui était plus marqué à droite, quoi.
Et autre chronique, le 28 août 2020, Votre billet s'intitule « Il n'y a pas d'âge pour être orphelin » et il évoque de façon extrêmement touchante, je trouve, la mort de votre mère. C'était important de partager votre peine, peut-être, avec les auditeurs ?
En fait, je crois que je pouvais pas faire autrement, parce que j'aurais pu lire les journaux et tout ça, mais moi, mon actualité, c'était la disparition de ma mère. Et ma ligne, un peu, à chaque fois, c'est que quand je dis des choses personnelles, j'ai envie que ça parle aussi aux auditeurs, et que ce soit quelque chose qu'on puisse partager. Et donc, je fais juste une vie, l'espace d'une vie, c'est-à-dire 17 août 1926, 24 août 2020, toutes les choses qui s'étaient passées entre ces deux dates-là, comment la France, le monde avait évolué, et comment ma mère s'en était sortie, avait évolué comme ça pendant toute cette période-là. Je pouvais pas parler d'autre chose, c'était mon actualité, c'était ça, je pouvais pas la trouver dans les journaux, et en même temps, il fallait que je sois suffisamment que ma chronique puisse parler à tout le monde. Mais souvent c'est ça, en fait, même une chronique sur France Inter, c'est souvent ça, c'est comment être personnel et comment en même temps ne jamais oublier l'auditeur.
Nous en parlerons bien sûr au cours d'une de nos soirées ensemble, de ces chroniques. Est-ce que vous étiez un garçon timide, François Morel ? On imagine que vous deviez être timide.
Vous avez raison, j'étais timide. J'étais timide et puis de temps en temps je lâchais les chiens, ou quand tout d'un coup j'étais en confiance, je pouvais avoir des comportements plus extraordinaire. J'étais pas timide, par exemple, sur toute une année, dans l'année scolaire. Mais au début, quand j'arrivais, j'étais timide et persuadé que j'arriverais jamais, que j'étais pas du niveau. J'avais souvent un an d'avance jusqu'au... j'ai redoublé ma quatrième. Donc jusqu'en quatrième, j'avais toujours un an d'avance. Et je me souviens que les débuts d'année scolaire, c'était à chaque fois « je serai jamais du niveau, j'y arriverai jamais, je suis trop nul » et tout ça. Et puis finalement, voilà.
Quand vous dites lâcher les chiens, vous avez des exemples, des histoires à nous raconter ?
Non, mais souvent, par exemple, j'étais timide en début de saison quand je connaissais pas les gens, et puis au bout d'un moment, j'étais un peu le rigolo de service. Donc je sais pas, moi, je me souviens souvent que j'étais un peu pince sans rire, donc c'était pas un cadeau qu'être assis à côté de moi, parce que souvent je faisais rigoler mon voisin de table qui se faisait engueuler par les frères, parce qu'on était chez les frères, qui pouvaient être violents même à l'époque. Et moi, j'avais une tête d'enfant de cœur qui faisait que j'étais tranquille, moi.
Alors, vous découvrez le théâtre à la MJC L'Albatros.
C'était pas une MJC, ça s'appelait un Mille Club.
C'est une appellation officielle, Mille Club ?
Je crois. Oui, c'est-à-dire, je pense que dans les années 60, il y a eu justement toutes les maisons de la culture. Un peu plus tard, il y a eu les maisons des jeunes et de la culture dans les villes moyennes.
Oui.
Et puis, dans les petits villages, il y a eu, dans les années 70, des 1000 clubs qui ont été construits.
D'accord, donc vous auriez pu y faire, par exemple, du tricot ou de la poterie, mais vous avez fait du théâtre.
Oui, c'est ça, oui. J'aurais pu... Je ne sais pas ce qu'on y faisait, d'ailleurs, parce qu'on s'y retrouvait pour discuter de temps en temps. Et puis, à l'époque, il y avait un animateur de la jeunesse et des sports qui s'appelait Jean-Claude Collot et qui avait organisé des spectacles, notamment des spectacles qui tournaient comme ça dans les 1000 clubs. Et c'est là où j'ai découvert des gens comme Francesca Solville, Marc Augeret, etc. Voilà.
Alors dans ce lieu qui s'appelait l'Albatros, attention, c'est une question culturelle. Est-ce que c'est là que vos ailes de géant ont commencé à pousser ?
Bravo. Je sens pas que j'ai des ailes de géant, donc elles n'ont jamais poussé, mes ailes de géant. Mais c'est là où, en tout cas, où j'ai commencé à faire des spectacles en amateur et à dire des poèmes de Tardieu, de Prévert, à faire un spectacle qui s'appelait Maurice et Maurice sont dans un bateau avec un copain qui est devenu par la suite professeur des écoles, qui s'appelle Philippe Bréard, et qui a passé toute sa vie devant des enfants, à, à vivre sa passion de professeur des écoles. Et puis moi, voilà, c'était comme ça. C'était des belles découvertes aussi. Je pensais à un monsieur qui s'appelait Jean-François Panet, qui avait été invité aussi à l'initiative de Jean-Claude Collot, dont je parlais tout de suite, là, et qui avait mélangé, qui faisait un spectacle où il était 10 heures, et il mélangeait justement du Robert Lamoureux, du Jacques Martin même, je crois, qui avait écrit des sketchs, avec des poèmes de Blaise Cendrars, ou « Quand tu aimes, il faut partir, quitte ta femme, quitte ton enfant, quitte ton ami, quitte ton ami eux ». C'est des textes qui m'impressionnaient beaucoup et j'aimais beaucoup ce métissage entre des textes très littéraires et des textes drôles. Et j'aime bien. Je pense que ça m'a inspiré toute ma vie de comédien, ça.
Oui, ça a l'air d'être resté un peu votre marque de fabrique, ce bon. Métissage.
Ouais, j'aime bien ça. Mais en même temps, j'ai besoin d'être charmé. Tout le temps, que ce soit par des jolis mots ou par des choses drôles, mais à chaque fois j'ai envie qu'on soit un peu charmé, un peu étonné, un peu surpris par la singularité d'un texte ou d'un comédien.
Donc vous avez ce goût pour le théâtre, pour la scène qui naît, qui apparaît, qui se révèle à vous, mais vous faites des études de lettres.
Ouais. Pour me rapprocher un peu du théâtre, pour connaître aussi le théâtre. Parce que aussi, peut-être je suis un peu trouillard, donc je ne sais pas comment faire. En plus, je ne sais pas comment faire, moi, à 18 ans, pour devenir comédien. Je suis sûr que j'ai envie d'être... D'ailleurs, je ne sais pas si je veux être comédien ou si je veux... fantaisiste, comme on disait tout à l'heure. Je vais être sur une scène. Je sais pas très bien quoi faire. À l'époque aussi, on écrit des chansons avec un copain qui s'appelle Yves-Marie Lecomte. Mais j'ai du mal j'arrive pas à jouer de la guitare, moi. Donc je me dis, je peux pas être chanteur, je peux pas m'accompagner. J'ai pas encore les moyens d'avoir un orchestre derrière moi. Donc je sais que je veux être sur scène, mais je sais pas très bien comment. Je n'ose pas passer le conservatoire à 18 ans, j'aurais pu essayer. Donc je me rapproche du théâtre par la voie universitaire en me disant je vais faire des études de lettres. Et il y a un institut théâtral qui est super bien, d'ailleurs de super bonne qualité, parce que c'est Robert Abirached qui le dirige à Caen. Et donc je vais faire une maîtrise de théâtre.
Et après, vous osez quand même présenter après, La Rue Blanche.
Ouais. Après, je me dis, mais alors, si je continue comme ça, je vais être professeur, ce qui est un très beau métier, mais je le sentais pas pour moi. Et je me disais, mais je vais avoir un club théâtre entre 13h30 et 14h. Je vais m'ennuyer. Je vais pas réussir à vivre ma passion, qui est celle d'être sur scène. Donc je passe quand même l'école de la Rue Blanche. À l'époque, il y a trois écoles un peu nationales. Il y a l'école de Strasbourg, il y a le Conservatoire National de Paris et il y a l'école de la Rue Blanche qui s'appelle l'ENSAT et qui est située rue Blanche.
Et qui est aujourd'hui à Lyon.
Hein. Voilà, qui est à Lyon maintenant. Et le Strasbourg me paraît trop loin géographiquement, le Conservatoire me paraît trop loin socialement. Je me dis, la Rue Blanche, c'est pas mal, c'est pas loin de Saint-Lazare. Quand on arrive de Caen, c'est assez simple,
pratique.
C'est pratique. Et puis c'est là où étaient passés des gens que j'admirais beaucoup et que j'admire toujours, qui étaient Guy Bedos, Jean-Pierre Mariel, Jean Rochefort. Je me disais, peut-être que c'est bien pour moi, ça.
Vous avez gardé des amitiés de cette époque, de ceux qui étaient dans votre promotion? Je ne sais pas si on parlait de promotion.
Ouais, j'ai un copain que je ne vois pas souvent, mais que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jean-Marie Blin, qui est devenu procureur de la République à Rennes.
Une autre forme de théâtre.
Ouais, qui a toujours hésité entre le théâtre et le droit, et qui finalement a choisi le droit.
Il y avait Christine Scott-Thomas aussi, non?
Oui. Oui, Christine Scott-Thomas, que j'ai pas beaucoup revue après, parce qu'elle a fait une carrière de star internationale et moi j'ai toujours refusé d'être une star internationale.
Vous êtes une star nationale.
Star rurale. Cela dit, j'ai fait après un court métrage avec elle, puis j'ai pu la croiser comme ça dans des émissions de télé. Et c'est quelqu'un que j'admirais beaucoup et qu'on admirait déjà même quand elle était pauvre et inconnue.
Comment ça se passe après La Rue Blanche? Est-ce que vous intégrez tout de suite la troupe de Jérôme Deschamps et Macha Makaïef?
Ah, il y a un petit temps entre les deux quand même.
Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là?
Il s'est passé des spectacles de café-théâtre que j'écris avec notamment une amie qui s'appelle Marina Thomé. Donc voilà, ça c'est, on tourne, on va dans des petits lieux. Je crois qu'on joue à l'Albatros de Saint-Georges-des-Groseilliers d'ailleurs. Et puis on joue dans des comités d'entreprise, EDF, des fois entre midi et 13h. Et d'ailleurs, quand on a commencé à faire le spectacle, c'était l'époque où Guy Bedos faisait sa rentrée au théâtre du Gymnase. Et on avait écrit une lettre à Guy Bedos en lui disant « Cher monsieur, vous faites votre rentrée au Gymnase. Nous avons eu un succès formidable la semaine dernière au club L'Albatros et la semaine prochaine, nous jouons au comité d'entreprise de l'EDF. Vous commencez votre spectacle, on n'a pas reçu d'invitation. » Qu'est-ce qui se passe? Et le lendemain, son attaché de presse nous avait appelé en disant « Vous avez beaucoup fait rire, monsieur Bedos, qui vous invite quand vous voulez. » Donc on y était allé. Là, on faisait beaucoup moins les malins quand on s'est retrouvés dans la loge de Guy Bedos, qui nous avait reçus très gentiment.
Mais donc vous écrivez déjà des...
J'écris des sketchs,
vos spectacles.
Ouais, un peu. Je commence et puis en parallèle aussi... avec des gens de La Rue Blanche, on se constitue aussi un petit peu en troupe et on joue des spectacles sous la direction, enfin sous la mise en scène de Michel Cerda, et on joue un spectacle que je trouvais très joli d'ailleurs, qui s'appelait Tandis que j'agonise, qui s'était joué en plein air le long d'une rivière, et j'en ai un très bon souvenir.
Mais est-ce que c'est à ce moment-là aussi que Jean-Michel Ribes vous propose le rôle du groom dans la série culte Palace? C'est avant Les Deschiens?
C'est avant Les Deschiens, mais c'est un petit peu plus tard, ça, oui, ça doit être 87, 88.
Et c'est 88. Votre première apparition, entre guillemets, publique, le début de la célébrité, non?
Enfin, je passe à la télé, quoi, avec Jean-Michel Ribes. Entre-temps, j'avais joué un peu au théâtre, j'ai même fait une année de tournée aux côtés de Serge Lama dans Napoléon, où je faisais le trial. Ce qu'on appelle le trial, c'est-à-dire le un peu l'humoriste à côté des vedettes d'opérette. En tout cas, c'est le rôle que tenait Bourvil à côté de Guettari.
Le trial, vous écrivez ça comment?
Ben, je crois que ça s'écrit T-R-I-A-L.
Tout simplement.
Faudrait vérifier. Mais c'est ce que je faisais aussi Maurice Baquet. Et moi, dans cette opérette qui s'appelait Napoléon, j'annonçais les scènes et j'essayais de faire rire à côté de Serge Lama. Et de temps en temps, j'y arrivais.
Mais c'était prévu dans la mise en scène ou vous improvisiez
On improvisait un peu et puis c'était une mise en scène. Oui, et puis il était assez rieur, Serge Lama, donc il était assez client de mes bêtises. J'avais une autre expérience aussi de théâtre, c'était Les Dégourdis de la 11e, Vaudeville militaire de André Moisy-Éon et d'Aveillant, avec notamment Robert Hirsch et Darry Cole. Et c'était assez merveilleux parce que c'était deux vedettes qui travaillaient d'une façon tellement différente que pour un jeune comédien, c'était se dire, tiens, qu'est-ce qu'on va choisir comme carrière ou qu'est-ce qu'on va choisir d'être sur scène, comment on décide de travailler. Il y en a un qui est...
Oui, c'est quoi cette façon différente?
Ah, ben c'était rigolo parce que Robert Hirsch, il savait qu'il jouait une bêtise en jouant ça, mais il jouait avec la précision de la comédie française, avec son... Enfin, avec sa rigueur absolue, c'est-à-dire que chaque geste, chaque façon de dire, chaque réplique, c'était millimétré, c'était impeccable. Et donc, Darry Cole, aux côtés de Robert Hirsch, pendant les répétitions, se disait, il faut que j'ai cette rigueur. Sauf que Darry Cole, les premières représentations, s'est rendu compte que s'il était aussi rigoureux que Robert Hirsch, il ne faisait pas rire du tout. Donc au bout d'un moment, il a laissé la place à son invention du moment, qui était complètement farfelue, mais hilarante. C'était pas du tout basé sur le travail, mais sur une inspiration du moment. Et c'était un type très inspiré. Darry Cole nous faisait beaucoup rire, notamment dans les coulisses, et c'était un bonheur de passer du temps à côté de lui. C'était drôle. Enfin, il y avait aussi un type qui s'appelait, que vous connaissez, qui faisait partie des Branquignoles, et qui s'appelait Pierre Tornade. Et je me souviens qu'entre le premier jour de répétition et la dernière représentation, au bout d'une centaine de représentations, ils jouaient tout exactement de la même façon. Et je me souviens qu'au début des répétitions, Pierre Tornade nous avait dit « Il ne faut pas qu'on travaille trop, les gamins, parce qu'on va perdre notre fraîcheur.
» François Morel, donc vous entrez ensuite dans la troupe des Chiens. On est quoi là? On est en 1990?
Oui, je crois que je les connais, je les rencontre en 88 aussi, oui, il me semble. Je les rencontre pour un spectacle, je rencontre Jérôme Deschamps et Macha Makeyev en 88 pour un spectacle qui s'appelle Lapin Chasseur, qui doit se jouer à Nanterre et qui finalement est reporté, qui est annulé à Nanterre et qui se jouera finalement non pas chez Patrice Chéreau, mais chez Jérôme Savary, au théâtre de Chaillot l'année suivante, en 1989.
Donc c'est là, c'est dans cette troupe que vous faites la connaissance de ceux qui sont toujours des proches aujourd'hui, que vous citez souvent. Il y a Yolande Moreau, Olivier Broche, Olivier Saladin. J'en oublie sans doute. Atmen Khelif.
Atmen Khelif,
Bruno Locher.
Bruno Locher, Jean-Marc Billour, Lorella Cravotta. Il y avait Philippe Rouèche, musicien à l'accordéon. Il y avait Fabienne Chaudat de temps en temps. Il y avait Yves Robin, François Toumarkine.
Ça fait beaucoup de monde, mais il y avait un vrai esprit de troupe.
On s'entendait très bien, oui, on s'entendait très bien, on se faisait beaucoup rire ensemble, on s'amusait beaucoup. C'est-à-dire que souvent, quand on nous parle de cette époque-là, on nous renvoie plutôt aux images, alors que ce qui nous a surtout occupés, c'était le théâtre. Donc,